Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir. Tâchez de vous être agréable. Fait exceptionnel, nous ne sommes pas en direct. Nous sommes le vendredi 27 février et nous sommes à l'issue du premier volet que nous avons consacré à des chansons, des musiques remarquables pour la qualité de leurs arrangements. Et en fait, on a beaucoup parlé. C'est à cause de vous, mesdames, vous avez beaucoup trop parlé. Donc, ce que je propose, c'est qu'on reste. Merci à la technique qui est d'accord et qui nous a proposé de rester. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre une autre émission qu'on diffusera vendredi prochain, si ça vous convient, parce que je trouve qu'on a dit des choses assez passionnantes et j'ai envie qu'on poursuive notre débat. J'ai été obligé de couper la fin de Chico Buarque de Construissant, donc Dominique Dreyfus qui avait choisi cette chanson de Chico Buarque aura le droit de me mettre un bon coup de pied aux fesses la prochaine fois qu'on se verra. Elle n'est pas à Paris, donc elle n'est pas dans le studio. Dominique Dreyfus est journaliste, elle est auteure, elle est réalisatrice de nombreux films. C'était la commissaire de l'exposition sur la musique populaire brésilienne lors de l'année du Brésil, ça fait déjà 20 ans, nom d'un chien, que c'était l'année du Brésil. Je suis en compagnie de Marluce Campuch, vous êtes productrice du programme Nuances du Brésil, qui était une production sur Radio Alpha que vous avez animée pendant longtemps et qui a été aussi reprise par 16 radios.
Une trentaine de radios, un peu partout en France. Oui.
Donc, ce qui nous réunit tous, c'est que on est un peu, j'ai envie de dire, des passeurs de la culture brésilienne. Véronique Mortaigne, vous êtes journaliste, vous êtes auteur. Vous avez signé la programmation musicale de la saison du Brésil 2005. Vous avez sorti de nombreuses compilations et d'autres... 2025, oui, la saison du Brésil et non pas l'année du Brésil. Vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes française, mais vous êtes aussi brésilianisée, puisque vous avez vécu au Brésil, Dominique Dreyfus.
Exactement. Non, je ne m'appelle pas Dominique Dreyfus.
Comme Dominique Dreyfus, pardon, Véronique.
Oui, j'ai vécu au Brésil, oui, je suis très attachée, j'ai une fille brésilienne et je suis très attachée au Brésil.
C'est notre point commun. Et Sophie Tsitsijvili de Panasket, vous êtes franco-brésilienne, vous avez vécu pendant très longtemps à Rio et vous êtes d'ailleurs une partie de l'année au Brésil, vous êtes la directrice artistique du festival Paroles et Merveilles. Nous avons été partenaires du forum de demain que vous avez organisé, c'était au mois de septembre dernier à Paris, en 2025. Merci de la présence, Sophie Tsitsijvili.
Merci.
Et vous nous avez proposé, si vous avez écouté la semaine dernière, une espèce d'ovni. Moi, je ne connaissais pas ce qui était une véritable trouvaille. Marluce, si vous nous avez proposé un dimanche à la fête foraine, le Domingo no Parque de Gilberto Gil. Nous avons ensuite cédé la parole vendredi dernier à Dominique Dreyfus qui nous a présenté Construissant, qui présente la particularité d'avoir le même arrangeur, le fameux Rogério Dupra. Véronique Mortaigne, je vous ai demandé de venir aussi avec une musique que vous trouvez remarquable pour la qualité de ses arrangements, mais auparavant, voulez-vous bien nous faire lecture, s'il vous plaît, du prochain Festival du film brésilien de Paris.
28e édition. Et à l'Arlequin, qui est un cinéma formidable, et où il convient d'aller au moins une fois par an, et notamment là pour le Festival du film brésilien, du 7 au 14 avril, qui arrive. Et donc c'est rue de Rennes, c'est très agréable, on peut avoir des pandéquèges aussi au milieu des...
on peut picorer.
On peut même boire une caipirinha à l'occasion, donc ça ne gâche rien. Et donc il y aura cette année des fictions, des documentaires et deux figures majeures du cinéma brésilien, Lázaro Ramos, qui est un acteur afro-brésilien extraordinaire, et Thaís Araújo. Et puis, il y aura un hommage à Paulo Gustavo, humoriste mort du Covid, ouais. Et qui n'est pas très connu en France, mais qui est vraiment très, très aimé au Brésil. Un programme complet, vous pouvez le trouver sur le site de Jean Gada, qui est l'organisateur de cet événement, .org, jeangada.org.
Et Véronique Mortaigne, vous êtes aussi auteur de « Brésil au pluriel ». Le sous-titre, c'est « Éloge de la déraison », que j'ai dévoré, évidemment. Et je vous avais dit, je m'étais régalé, parce que je trouvais que c'était un livre qui était parfaitement politiquement incorrect. Et en plus de tenter ce qui peut sembler être une gageure, c'est-à-dire de définir qu'est-ce que ça signifie d'être brésilien. Et évidemment, vous nous emmenez à Rio de Janeiro, vous nous emmenez dans plein d'endroits en musique, parce qu'on est, vous partagez aussi vos souvenirs personnels, parce que vous, Véronique Mortaigne, vous avez connu par exemple Jean Gilbert, personnellement, il a joué de la musique pour vous, vous avez connu tous les plus grands astres de la musique brésilienne. C'est peut-être parce que vous étiez aussi pendant longtemps journaliste au journal Le Monde, et ça ouvre beaucoup de portes quand on veut interviewer quelqu'un.
Eh bien non, c'était avant justement, enfin c'est, Jean Gilberto non, mais c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses au Brésil, du Brésil. Moi j'étais prof au Brésil, j'étais jeune, je suis arrivée, j'y connaissais rien, j'étais cartésienne. Bref, j'ai découvert au Brésil un côté invisible, le côté du hasard aussi, de se laisser porter aussi par la vie d'une certaine manière, par des énergies, des entités, des choses qu'on ne maîtrise pas, et que moi, en bonne française née à Paris, je ne vivais pas ça comme ça du tout. Et il se trouve que j'ai habité Olinda, parce que j'étais prof à Recife.
Donc on est dans le Nord-Est.
Dans le Nord-Est, qui est une ville coloniale magnifique, que je suis tombée complètement amoureuse de cette ville, je le suis encore et toujours. Et que là, habitait un certain nombre d'artistes qui venaient du Sud, que j'ai connus à ce moment-là. Mais je n'étais pas journaliste encore. Enfin, j'étais un petit peu journaliste, mais pas vraiment. Et donc, j'ai connu effectivement Chico Buarque, etc., par d'autres biais. Et ensuite, je suis revenue en France. C'était mon choix. Je ne voulais pas rester au Brésil. Et je suis devenue journaliste au Monde.
Ça, critique. C'était quand, à peu près ? Quelle année, à peu près ?
Quand je suis entrée au Monde, 89.
D'accord.
Donc, à ce moment-là, évidemment, j'avais beaucoup de connexions déjà, parce que je les connaissais d'avant. Hein. Donc, et je me dis, il y a des choses quand même incroyables, parce qu'en réalité, en 89, je suis rentrée au Monde diplomatique, qui était à cette époque-là conjoint au Monde, encore. Hein. Et il y avait le Monde diplomatique, et le couloir d'en face, c'était le Monde culture. Mmh. Donc j'allais les voir. Et puis un jour, comme on commençait à savoir que j'avais vécu au Brésil, il y a un musicien brésilien qui meurt. Et la chef culture me dit « Tu veux pas faire une nécro ?» Je dis oui.
Bah oui.
Et c'était Louise Gonzague. Donc c'était mon premier papier dans le Monde.
Ah, okay.
Ah oui.
Était Louise Gonzague, donc, qui était complètement dans mon champ de vision, nord-estin, etc.
Ah oui, le roi du Bayan. Ah ouais.
Et donc je me dis, bon, il n'y a pas de hasard. Et après, je suis devenu chef de rubrique musique au Monde pendant de longues années. J'en suis parti parce que c'était fatigant.
Vous avez connu les belles années, on peut dire, du journal Le Monde, non ?
Oui, du journal Le Monde sans doute, et puis surtout et puis de la musique. Ouais. Donc, effectivement, moi j'ai pu, comme j'avais un champ quand même très ouvert, j'ai pu interviewer David Bowie, Jean Gilberto, enfin tout le monde, et dans des conditions extraordinaires, avec beaucoup d'espace, et beaucoup de travail quand même. Hein. Et moi j'étais critique, donc on travaillait pendant la nuit à l'époque. Au Monde, parce que c'était un journal du matin, donc on allait au concert, ça se fait encore un petit peu, mais beaucoup moins maintenant, parce que la critique a été quand même réduite partout, mais c'était ça, mon quotidien était de sortir le soir, de rentrer à la maison, de faire le papier pour qu'il paraisse le lendemain. Donc au bout de 24 ans, j'en ai eu un peu marre, et puis j'en suis partie.
Oui, et puis vous avez de nombreuses activités. Alors, vous avez évoqué Louise Gonzague, le roi du Bayan,
oui.
Dominique Dreyfus, qui la semaine dernière a choisi une musique qui est également orchestrée par Roger Duprat, a bien connu aussi. Aujourd'hui, il y a un centre culturel Louise Gonzague à Rio de Janeiro où on va faire la fête nord-estine tous les vendredis soirs à San Cristóvão, pas très loin du stade du Maracana. Et ça, je trouve que c'est assez emblématique parce que au début, le Bayan, c'était un peu la musique des plouks du Nord-Est. Quoi.
Oui, quoique Louise Gonzague, quand même, a été la première star nationale à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums dans les années 50. Hein, c'était le début de l'industrie musicale, qui était incarnée par lui, de plus que par d'autres mouvements, parce que la samba était très peu enregistrée. Il n'y avait pas beaucoup de disques avant les années 70. Il y avait très peu de disques de samba, qui étaient des sambas populaires. Mais Gonzague, lui, il est rentré dans le système industriel, tôt, on va dire, très vite et très tôt. Et par parenthèse, Dominique est né au Brésil et dans le Nord-Est.
Alors, je ne sais pas si elle est née au Brésil, Dominique Dreyfus.
Je pense que oui. Je pense
on lui posera la question. En tout cas, ouais, bien sûr, c'est, bah, vous comme elle, vous êtes... voilà.
Je pense qu'elle est née à Garanhuns.
Eh ben, on va lui poser la question. Et je trouve ça très intéressant, ce processus d'anoblissement, comme ça, de cette musique rurale, qui était, voilà, c'était la musique des c'était le bal popu, hein, le baillant.
Bah, j'aimerais quand même dire que le baillant, c'est une musique qui est en Sophie. 6-8, et ce n'est pas si évident que ça.
En tant que rythme, complètement d'accord. Non, mais complètement. Mais c'était le bal popu, quoi. C'était ça, ce qu'on appelle nous le bal popu. C'était la musique, c'était le forró.
Non, c'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord.
Ah ben ouais. Voilà, Alors dites-nous, non. Véronique.
Bah, d'abord parce que évidemment, c'était marqué par la région d'origine, mais qui est une région nord-estine où il y a un tel mélange musical qui est complexe.
Et
donc c'était pas de la musique de Gaffière par exemple, non. C'était pas du tout ça.
Complètement
d'accord. De la musique populaire, des bals populaires, c'était autre chose.
Oui, mais quand il arrive à Rio de Janeiro, parce qu'il quitte son nord-est, son sertão, où c'est désertique et sa pauvre jument est morte de soif. D'ailleurs, c'est Asa Branca, c'est pareil. On parlait de l'émotion avec Sophie Tsitsishvili de Panasket que peut nous procurer la musique. Moi, Asa Branca, qui est l'hymne du Nord-Est, à chaque fois que je l'écoute, je ressens une émotion quand il nous dit « Morreu de sede, meu alazão ». Ma jument est morte de soif, parce que c'est vrai que le pauvre, il était dans la seule... dans la seule région qui n'est pas humide du Brésil. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis le bal popu, c'était un peu le preconceito, un peu le cliché qu'avait le carioca du sud du Brésil quand il voyait débarquer ce gars avec son chapeau de cuir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis pas que c'est de la sous, je dis pas du tout que c'est de la sous-musique,
non,
et que c'est pas intéressant.
C'est pas ça, c'est la notion de bal populaire qui me dérange, parce que le bal populaire, là, c'est pas ça. Là, c'était un marqueur d'une culture du Nord-Est, alors qui pouvait être moqué. De fait, mais c'était pas le bal populaire.
Alors, vous avez raison dans le sens où le bal populaire, ça n'est pas une musique, ça n'est pas un rythme. Je suis d'accord avec vous. Ouais.
Oui, bon, mais c'est.
Marlous Campos.
J'ai quoi comprendre Gilles quand il dit ça, parce que dans le Nord-Est, cette musique, elle était populaire. Pas dans le sud du Brésil, mais dans le Nord-Est, les baillons étaient la musique de cet endroit. Donc tous les gens, n'importe desquels, si populaire ou pas, tout le monde écoutait, était dans les baillons. Donc, c'est une musique qui atteignait la population entière.
Absolument,
mais aujourd'hui, tu peux écouter du Lénine, qui fait beaucoup de baillons, avec des poésies extrêmement chiadées.
Gilles Bertogil, Caetano.
Non, mais ça ne veut pas dire que toutes les poésies du baillon sont géniales.
Non, mais ce qui veut dire que le baillon n'est pas forcément associé, ne peut pas être associé à du bal populaire, à du...
Après, de toute façon, le relais, c'était aussi évidemment tous les Nord-Estins qui sont allés construire les métropoles du Sud, à Sao Paulo, à Rio, à Brasilia, qui en fait ont été le relais de cette musique parce qu'eux-mêmes étaient nord-estins.
Et parce que le Nord-Est est la région la plus pauvre économiquement du Brésil. Donc quand on est à Recife, parfois il faut aller travailler à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro pour avoir du boulot. C'est ce qu'a fait le président Lula, qui est originaire du Pernambouc. Bah, il a pris le camion pour aller travailler à Sao Paulo parce qu'il était ouvrier. Donc le Nord-Est reste la région la plus pauvre du Brésil sur le plan économique. Et moi, je trouve une des plus riches sur le plan musical. Et ce que je trouve très intéressant, et c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'intéresse beaucoup ce processus un peu d'anoblissement de cette musique et le succès qu'il en fait. Et en ce moment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mesdames, mais on assiste à la création presque, j'ai envie de dire, d'un culte et d'un mythe autour de la personne de Elsa Suarez, qui est morte il y a quelques années, qui était une des plus grandes chanteuses de samba, qui était pauvre, qui était noire, qui était quasi analphabète et qui n'a pas fait d'études. Et aujourd'hui, elle a eu une carrière en dents de scie avec des succès, avec des traversées du désert. Et aujourd'hui, il y a des écoles Elsa Suarez qui se créent. On inaugure des centres culturels Elsa Suarez pour cette fille qui a été mariée à 12 ans et qui a eu son premier fils à 13 ans et qui se faisait cogner par son mari quand il avait un coup dans le pif. Je trouve ça assez magnifique à observer.
Oui, qui n'est pas du tout nord-estine, hein, évidemment.
Non, hein, alors elle est bien de Rio de Janeiro. Hein. Elle est bien carioca. Hein.
Oui, y a un truc avec Elsa Suarez aussi, c'est qu'elle a été la femme de Garrincha.
Oui, le joueur de foot.
Qui était le joueur de foot, qui était une idole nationale avec Pelé. Et donc, ça a compté aussi dans son personnage. Hein. Et puis après, elle a été récupérée de manière tardive par tout l'underground très électro de Sao Paulo. Hein, ce qui fait que...
Ouais. Sophie, parlez bien dans le micro. Ouais.
Cet engouement pour Elsa Soares, et c'est surtout par rapport au personnage féministe qu'elle représente, avant tout.
Ah oui, tout. Et oui, parce que... Et Caetano Veloso, on peut lui dire merci aussi, parce que quand elle était justement en pleine traversée du désert, je crois qu'on est en 1985, elle n'enregistre plus, le téléphone ne sonne plus, et bien Caetano Veloso, qui est un des plus grands chanteurs du Brésil, a un show, a un spectacle à la télévision. Il va chanter Lingua, une chanson, une samba, et il dit « Ok, mais je vais d'abord passer chez Elsa Soares, je vais la prendre parce que c'est quand même une de nos meilleures chanteuses, on ne la voit pas assez souvent à la télé. » Donc il lui passe un coup de fil, il dit « Bon, je viens te chercher à 19h et on part aux répétitions. » Et là, le Brésil, parce qu'à l'époque, évidemment, tout le monde regarde la télévision, il n'y avait pas YouTube, on est en 1985, et les Brésiliens se disent « Ah, c'est vrai que Elsa Soares, c'est quand même une de nos meilleures chanteuses. » Et là, elle est repartie à enregistrer des disques, elle a été signée sur des labels, elle est venue... elle a chanté à l'Opéra. Vous vous souvenez de l'année du Brésil, il y a 20 ans, elle a chanté à l'Opéra de Paris en 2005. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir l'interviewer. Et pour elle... Qu'est-ce que ça signifie ? Avant, elle habitait dans la favela, elle habitait à Padre Miguel, et elle allait au comment on appelle ça ? À l'armée, au cartel militaire, comment on dit ça ? Il y avait un régiment, et elle allait au régiment de l'armée en disant « Est-ce que je peux avoir les restes de la cantoche pour nourrir mes enfants ?» Hein ? Donc moi, je trouve ça merveilleux. Et quand on parle, la musique peut vous changer votre vie, peut transcender votre vie.
Et après, quand elle s'est mise en ménage, comme on dit, avec Garrincha était mariée. Hein, oui. Donc il avait des enfants, etc. Donc elle a été, mais vraiment, ils ont été
traînés dans la boue.
Hein. Lui, il était très alcoolique, il a commencé à jouer moins bien. Donc ils se sont exilés en Italie parce qu'en fait, des gens lançaient des pierres sur leur maison, etc. C'était,
ils peignaient salope sur le mur, ils habitaient à Urca, elle découvrait le matin, il y avait marqué salope.
C'est elle qui a tenu tout.
Garrincha,
elle a tenu Garrincha, elle a tenu sa maison. C'est elle qui a tout tenu jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Garrincha. Et elle, c'est une dame d'une fibre, un truc impressionnant.
Alors, je vous propose, mesdames, on ne va pas reproduire ce qu'on a fait vendredi dernier parce que vous avez beaucoup trop parlé, on n'a pas respecté le timing.
Les femmes sont bavardes, de toute façon, Gilles.
Je vous remercie, évidemment, je vous remercie de la présence, mais on va essayer de tenir le timing.
Non, c'est une définition,
oui,
quoi.
Oui, pour cette émission, vous écoutez Aligre-FM, le principe, c'est chaque personne choisit une musique qui est remarquable pour la qualité de ses arrangements. Donc, le principe de cette émission, je suis en compagnie de Marlous Campos, Sophie Tsitsichvili de Panasket et Véronique Martaigne. Je vous ai demandé de travailler en amont. Apparemment, je vois que tout le monde a bien fait son travail. Véronique Martaigne, vous avez choisi une musique. Mais avant, Sophie, est-ce que vous voulez bien nous annoncer l'agenda culturel ?
Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que la guitariste Gaëlle Solal sort un nouveau disque qui s'appelle « Rio ». Autour d'un répertoire de compositeurs brésiliens tels Ernesto Nazaré, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, des anciens. Oui. Elle nous emmène jusqu'à la célébration inspirée du mythe du Sassi, un esprit malin devenu par la voix de la compositrice Clarice Assad, un concerto pour guitare, instrument roi du Brésil. Le disque sort le 27 mars sur le label Fuga Libera. Le concert de lancement aura lieu le lundi 13 avril à la salle Corto, 78 rue Cardinet, dans le 17e.
Alors, si vous nous avez écouté la semaine dernière, Sophie Tsitsichvili, vous nous avez proposé un ovni musical avec ce Milia...
Tarancon.
Voilà. Que vous allez m'écrire pour la SACEM, s'il vous plaît, parce que je dois faire mes déclarations après, parce que je ne connaissais pas. Hein. Okay. Je découvre. Marlous Campos, vous avez choisi Gilberto Gil un dimanche à la fête foraine Domingo do Parque avec des arrangements de Rogério Dupla. Donc là, on était en plein tropicalisme. Pour faire rapide et pour faire très simple, je dis que le tropicalisme, c'est un petit peu « il est interdit d'interdire mai 68, les guitares électriques, ok, nous on prend et puis on va incorporer ça dans notre musique parce que ça nous intéresse. C'est un petit peu un ricochet, je trouve, du mouvement artistique des années 1920 qui est l'anthropophagisme. Voilà, donc les tropicalistes, ils sont tous, c'est les hippies avec les cheveux longs, etc. Mais là, je fais vraiment très très simple. Dominique Dreyfus a choisi Chico Buarque, qui n'était pas un tropicaliste. Au contraire, Chico Buarque, c'était le beau gosse en costume-cravate. Souvenez-vous, quand le Brésil le découvre, on est en 1966 et il chante avec Nara Leão à Binda. Tout le monde devient amoureux. Il était d'une beauté, il était très beau. Nara Leão était magnifique. La chanson était canon. Il gagne le festival ex aequo. Parce qu'il y avait aussi, je crois que c'était Geraldo Vandré qui était ex aequo avec une musique.
Non, c'est qu'il en fallait de Flores.
Non, je ne sais plus.
Je crois.
Je ne sais plus.
Ça, ouais.
Non, parce que ça, c'est...
Non, je ne suis pas sûre.
Ça, c'est plus tard.
Ouais. Bon, on demandera à Google. Google a la réponse à tout. On est en 1966 et là, Chico Buarque, en plus d'être un très bel homme, il était toujours hyper classe. Il était en costume-cravate et à un moment, les tropicalistes, parce que c'était... quand même la guerre des chapelles. Hein. La musique était en ébullition. La dictature militaire va arriver. Enfin, déjà, elle était là.
Oui, tout le monde s'est lancé dans un festival qui était une dispute.
Mais c'est ce que vous avez choisi, Sophie, la semaine dernière. On était dans un festival, on était en 1985 à Sao Paulo. Il y a des festivals à Sao Paulo, à Rio, qui sont d'une qualité artistique excellent. Tous les plus grands astres de la musique brésilienne ont été découverts quasiment à l'occasion de ces festivals. Et puis, on est un petit peu exaltés. Ils ont tous 20 ans et quelques. Bon, aujourd'hui, ils ont tous 80 ans et quelques. Oui. Donc, on a le droit d'être un peu exaltés quand on a 20 ans, surtout quand c'est un régime autocratique qui prend le pouvoir. Et un des tropicalistes, en l'occurrence, c'était Caetano Veloso qui avait les cheveux longs. D'ailleurs, ça lui a, il a payé quand même très, très cher. On lui a coupé ses cheveux, cette espèce de hippie. À un moment, il a même un peu provoqué Chico Buarque en disant « Ouais, mais toi, alors attends... faudrait peut-être choisir ton camp parce que t'es avec nous, t'es contre nous, t'es toujours. » Il était un peu trop propre sur lui, quoi. Voilà, donc ça a créé des petites tensions. Ça a été un petit peu monté en épingle par les journalistes aussi, et puis tout ça a fini au resto. On est d'accord. Puis tout ça a fini au resto. Et parce que c'était pas la même chapelle, mais ils se respectent et qu'est-ce qu'on fait ? Ça a terminé de la manière la plus intelligente. Ils ont enregistré un duo les deux.
Ah oui.
Ils ont fait une chanson, mais c'est génial. On pourrait faire je ne sais pas combien de cycles comme ça sur la musique brésilienne. Donc, c'était le choix de Dominique Dreyfus la semaine dernière. Toujours Rogério do Prado aux arrangements avec cette magnifique construction qui se déconstruit. D'ailleurs, je voudrais dire que là, nous avons passé évidemment la version originale de Construção de Chico Buarque, mais qu'il existe, tapez sur YouTube, une version un petit peu shotchi de cette même musique chantée par Chico Buarque en duo avec Fernanda Montenegro, qui est
une grande actrice.
Là, voilà.
Parfois, pas chanteuse, mais une grande actrice.
Ouais. Parfois, toujours vivante.
Académicienne.
Oui, maintenant. Elle a 100 ans. Elle a 100 ans, Fernanda Montenegro. Ou 99, je crois. Je dis parfois, je fais parfois des raccourcis, pardonnez-moi, c'est pour les éditeurs. Parfois, je dis un peu, c'est un peu la Jeanne Moreau. Brésilienne, Fernanda Montenegro.
C'est la maman de
Fernanda Torres
qui a triomphé avec le film de Walter Salles.
Je suis toujours là.
Je suis toujours là et c'est assez marrant parce qu'à la fin du film, il y a une vieille dame qui apparaît.
Ouais.
Donc beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Brésil pensent que c'est Fernanda Torres qui se transforme en vieille. Or, c'est sa maman qui est extraordinaire, qui est Fernanda Montenegro.
Elles sont très ressemblantes.
Elles se ressemblent beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de cinéphiles qui se sont trompés. En fait, qui pensent qu'elle arrivait à se transformer en vieille dame. Alors qu'en fait, c'est sa mère.
Parce que vous avez tout à fait raison, Véronique Mortaigne. Fernanda Montenegro est actrice et sa fille, Fernanda Torres, est actrice. Et il y a
là, c'est un trio de Fernanda, parce que les pères, donc les maris de Fernanda Montenegro,
ils
s'appellent Fernando Torres. Et la fille, c'est Fernanda Torres.
Et alors, à Rio de Janeiro, dans le quartier d'Ipanema, il y a une place Fernando Torres, que j'ai vue par hasard.
Oui, il est acteur aussi, un grand acteur.
Il a une place à son nom, quoi. Le principe, donc, chaque personne vient avec une musique qui est remarquable pour la qualité de ses arrangements. Alors, Véronique Mortaigne, c'est à vous maintenant de travailler. On a parcouru la Tropicalia. Là, on n'est plus du tout dans le tropicalisme. Qu'est-ce que vous avez choisi, Véronique Mortaigne?
J'ai choisi Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, parce que je pense que c'est un des grands compositeurs et arrangeurs, du coup, parce qu'il a travaillé avec beaucoup d'arrangeurs aussi, mais il avait toujours le nez dans son œuvre. Hein, il ne cédait rien. Même quand certaines de ses chansons ont été traduites en anglais, il était sur le dos des paroliers, des traducteurs, etc. Il avait un soin incroyable à sa musique. Donc Tom Jobim, pour moi, est un des grands de la musique mondiale.
Ah oui, Ah oui.
Donc en dehors du Brésil. Alors, en plus, c'est une histoire brésilienne, c'est une histoire américaine, parce qu'il a beaucoup travaillé aux États-Unis, comme toute cette génération de la bossa nova, où il y a une interaction entre un grand créateur de musique qui sont les États-Unis, l'Amérique du Nord, qui a une richesse musicale équivalente à celle du Brésil.
Hein,
on va dire, où le Brésil a une richesse musicale équivalente, hein, si
oui,
on veut inverser la proposition.
Il a même un mélange. Hein,
je ne sais pas. Ok, d'accord.
Dans la bossa nova, il a beaucoup de jazz, énormément.
Voilà, mais les jazzmen américains se sont énormément inspirés de la bossa nova.
Ils sont devenus fous de la bossa nova.
Complètement. Et Jobim, pour moi, c'est vraiment, alors non seulement un grand musicien, un grand philosophe, un écolo, enfin tout ce qu'on veut. Donc j'ai choisi Sabia, qui est le nom d'un oiseau.
Ça vous plaît, Marlous, comme ça?
Énormément.
Et alors, c'est paru sur un album qui s'appelle Inédito, un inédit de Jobim après sa mort. Mais il avait enregistré avant, et dans un mouvement qui est assez brésilien aussi, c'est-à-dire que c'était un coffret qui avait été en fait commandé par l'entreprise Odebrecht.
Ah, qui est une entreprise de BTP.
De BTP, énorme, oui, c'est Bouygues, etc.
Oui.
Donc il y a cette pratique, au Brésil, que des boîtes privées, par exemple, quasiment tous les beaux livres qui existent au Brésil, sont des commandes, des cadeaux, des cadeaux d'entreprise qui sont commandés par des grandes entreprises. Et là, c'était le cas.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais.
Et c'était intéressant. Il a fait ça. Il y avait un énorme livret. Je ne l'ai pas, malheureusement, si je pouvais. Il y avait 22 titres réenregistrés par Jobim en 87. Et là, après, ça a paru donc en 95, après la mort de Tom Jobim.
Qui habitait aux États-Unis à la fin de sa vie. Hein. Il habitait à New York.
Non, il habite à Rio. Mais il est mort
à New York.
Il est mort à New York, mais il habite à Rio.
Ah bon?
Oui,
je
bien
crois
sûr.
Qu'il habitait à
il est,
New York.
Non, il était
enfin,
là.
Il y allait souvent, mais...
Oui.
Il allait souvent. Toujours fait
alors
des allées.
Alors qu'il détestait prendre l'avion, hein, Tom Jobim.
Oui. Bon, enfin, il détestait pas mal de choses, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Et en tout cas, là, ce qu'on entend, il y a des chœurs aussi, c'est magnifique. Donc... Sabia, c'est un oiseau, donc Jobim écoutait les bruits de la forêt, les oiseaux en particulier, à peu près tous les jours. Donc il habitait un jardin botanique, et il avait des apios chez lui, etc. Enfin, il était très lié à cette culture, et à la culture indigène aussi. Hein. Il analysait très largement l'étymologie des mots, Ipanema, Guanabara, enfin, etc. C'était son dada. Et donc, il fait Sabia. Et alors, ce qui est aussi assez intéressant dans cette version, c'est qu'il y a toute sa famille. C'est une espèce de famille comme ça,
alors,
très forte.
Alors, les voix de chœur, justement, est-ce que vous savez qui chante? Est-ce que ce n'est pas le quartet ONC qui chante,
non,
qui fait les voix de chœur?
Non, et notamment, il y a sa fille, Elisabeth Jobim, Beth Jobim, qui est une grande artiste plastique contemporaine.
Je ne la connais pas.
Qui vient à Rio. Elle fait des expositions à peu près partout. C'est une grande artiste.
D'accord.
Peintre, oui, et sculptrice, et donc là récemment elle a fait une énorme exposition chez Roberto Marinho,
et qui était le patron de la Télé Globo,
qui a fait une fondation dans son ancienne maison qui est absolument magnifique, où il présente des expos et tout ça. Donc elle a été dans les chœurs au moins pendant 10 ans, par exemple.
Ah, je me demandais, c'était parce que parce que vous m'avez envoyé l'extrait il y a quelques jours, Véronique Mortaigne,
ouais.
Et je me demandais si c'était pas le quartet ONC qui faisait les
Non.
Okay, okay.
Il y a les enfants, etc. Enfin, c'est une sorte de famille recomposée, les Caïmi, enfin tout ça, c'est vraiment famille, quoi.
C'est
les familles hyper douées, quoi.
Ouais, parce que Dorival Caïmi, le chanteur... auteur à trois enfants qui sont les trois musiciens de deux fils et une fille
et, oui.
qui a été d'ailleurs la première femme de Gilberto Gil, Nana Kaimi.
La première, donc, non, la deuxième.
La deuxième.
Ah bon?
Oui. La première, c'était... comment elle s'appelait?
Caetano était avec sa sœur, c'était les deux frangines.
Oui, en fait, non, la première, c'était Bettine, je crois.
Oui,
qui c'est la mère des premières filles voilà. des Gio. Après, il s'est mis avec Nan. Et après, c'était la sœur était Sandre, qui était la sœur des Dédé, qui était la femme de Caetano.
C'est
et
quand même...
ils se sont rencontrés, bon, ils se sont mis voilà. ensemble en Angleterre.
Parce que là, cette notion de famille, elle est importante au Brésil. Hein.
Ouais.
Vous parliez tout à l'heure de la posture de Chico, mais Chico, c'est une posture familiale.
Chico Buarque.
Chico Buarque, donc qui est de Sao Paulo, en fait.
Bah oui, de Sao Paulo.
Avec son père, mère, qui était le plus grand historien
du
Brésil.
Il est professeur universitaire. Sa mère, qui était une dame
soeur,
de la haute ouais. société.
Sa sœur, Miúcha.
Donc,
oui.
Miúcha, ouais. que vous avez bien connue, hein, Véronique
oui.
Mortaigne.
Oui.
Il avait
fait l'école du Louvre à Paris. Enfin, ouais, c'est une famille intellectuelle.
Une autre sœur qui a été ministre de la
Culture. La mère de Bébé Augeberto.
Oui. Pardon ?
La mère de Bébé Augeberto.
Miúcha.
Oui, absolument.
Voilà. Ex-femme de Juan, donc.
Voilà.
Donc, la mère de Bébé Gilberto voilà. n'est pas Astrud Gilberto.
Pas du tout.
Voilà.
Pas
J'espère qu'on n'a pas perdu d'auditeurs, parce que non. là, c'est un peu complicado.
Non, mais il y a une notion familiale. Et effectivement, là, par exemple, ben, oui, dans Sabia qu'on va écouter, il y a Anna, la femme de Jobim. Il y a le neveu. Enfin, il y a tout le monde est là. Il y a le fils hein, de Paulinho.
Paul
le
Jobim.
Fils,
oui.
Paul Jobim. Et au milieu de tout ça, il arrive. Enfin, ils sont super doués. Moi, je trouve vraiment, c'est incroyable. Et les chœurs, pour moi, les chœurs là chez Jobim, sont formidables.
Alors, on va écouter attentivement, on va écouter religieusement le choix de Véronique Mortaigne, Ton Jobim, Sabia, et après. Véronique, je vous demanderai, parce que vous faisiez on parlait aussi des États-Unis, des jazzmen qui ont craqué pour la bossa nova, et on va d'abord écouter, mais je vous demanderai après, est-ce que la bossa nova, elle n'a pas été un peu récupérée, est-ce qu'elle n'a pas été un peu maltraitée mais nous écoutons, de prime, le choix de Véronique Mortaigne, Ton Jobim.
Oh,
Vous écoutez Aligre FM, vous êtes dans Brasil Alto Astral en compagnie de Marlous Quimpouche, Sophie Tsitsichvili de Panasket et Véronique Mortaigne. Et pour tout vous dire, nous ne sommes pas en direct parce que nous faisons le volet numéro 2 avec, voilà, chaque personne a sélectionné une musique parce que nous avons beaucoup de choses à nous raconter. On a beaucoup aussi parlé vendredi dernier, donc on n'a pas eu le temps de terminer. Nous venons d'écouter le choix musical de Véronique Mortaigne, Ton Joby, Sabia, que nous avons écouté attentivement. Alors, tiens, petite question piège, je profite de votre présence, mesdames. Petite question, Ton Joby a une très belle histoire d'amour avec une grande vedette du cinéma français.
Jeanne Moreau.
Non. Alors, à ma connaissance, non, mais non. Jeanne Moreau qui a chanté.
Jeanne Moreau, française.
Non, non, mais voilà. Alors, peut-être qu'ils se sont rencontrés et peut-être qu'ils ont passé une nuit d'amour, mais ça n'est pas Jeanne Moreau. C'est officiel, puisque cette vedette qui est morte il n'y a pas très longtemps l'a raconté dans sa biographie. On avait fait une chouette émission avec elle. Est-ce que vous avez une idée, Marlous Quimpouche? Quelle vedette est-ce que ça vous dit quelque chose?
Rien. Dominique Sanda?
Non. Non. C'est marrant que vous parliez de Dominique Sanda. Je trouve qu'elle nous manque un peu dans le cinéma français.
Elle était venue au Vidigal nous rencontrer aussi.
Ah ouais, oui, ouais. Quand vous habitiez dans la favela du Vidigal à Rio de Janeiro,
ouais.
Sophie.
Oui, là, moi je suis très impatiente. Hein.
C'est, et ben voilà, Tipak, son nom m'échappe au moment où je vous parle. C'est Marlène Flûte. Non, pas Marlène. Qui jouait dans Fantomas, la jolie blonde. Ah. Comment s'appelait-elle?
J'étais pas ici en France.
L'actrice française qui après consacrait. C'est pas Marina Vladi, évidemment. Elle était très jolie. C'était un peu la rivale de Brigitte Bardot. Ça vous dit quelque chose? Non, non, on ne coupe pas, mesdames. On enregistre dans les conditions du direct. Ça va me revenir. J'avais fait. C'est pas après, elle a pris la défense.
Mais Gilles, vous nous alléchez là.
Mais oui, mais ça va me revenir. Mais ça va me revenir. Elle était
très,
très jolie. Non, mais c'est pas mal ce que vous venez de dire, Sophie. On est un peu. Elle était très jolie. Elle jouait dans Fantomas avec Louis de Funès. Elle faisait la jolie petite ingénue. Elle était rigolote comme tout.
Qui est Marlène Jobert.
Non, mais c'est pas mal ce que vous dites.
Mireille Darc.
Ouais, on est pas loin là.
J'aurais pensé à Mireille Darc.
C'était la fille de Louis de Funès dans les gendarmes.
Non, c'était pas la fille de Louis de Funès. Et elle a épousé le fils de Simenon, de Georges Simenon.
Ah ouais.
Et elle est.
Digression.
Ouais, bon, enfin, ça va
revenir. Bon,
ouais, ça va revenir.
Alors.
Oui. Mais Jobin était séducteur, hein, de toute façon.
Bah, oui.
C'est beau mec.
Parce qu'elle est partie tourner un film à Rio qui s'appelait Copacabana. Mm. Et qui avait écrit la musique qui s'appelait Copacabana Palace, je ne dis pas de bêtises. Et qui avait écrit la musique du film Ton Joby. Et les deux, ils étaient magnifiques. C'est, voilà. Donc là, on a écouté votre choix. Est-ce que, Véronique Mortaigne, on peut dire que la bossa nova, les jazzmen américains et même tous les Américains, Mylène de Mongeau, ça me revient à présent. Voilà. Merci à mon technicien qui m'a soufflé, Philippe Dunford. Mylène de Mongeau a une belle histoire d'amour pendant le tournage. Est-ce qu'on peut dire que la bossa nova, elle a été un petit peu récupérée, un peu... Je vous pose la question parce qu'il y a un musicien qui s'appelle Edu Lobo, je crois que c'est Edu Lobo, qui a chanté « Pobre samba meu, se modernizo ». Il a dit ma pauvre petite samba, elle s'est modernisée et perdeo, nana, elle s'est jazzifiée et elle a perdu un petit peu son âme. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique?
Non, je pense pas du tout. Je pense que les musiciens de la, enfin ceux qui ont créé la bossa nova, écoutaient de la musique américaine. Hein, ils le revendiquent. On a fait un documentaire sur Astrud Gilberto,
qui est passé sur Arte il y a pas longtemps.
Qui est passé sur Arte il y a pas longtemps, où Astrud Gilberto elle-même en voix off, et tout le monde dit Menescal, Roberto Menescal, ils écoutaient Nat King Cole, ils écoutaient Sinatra, c'est né du fan club de Sinatra. Donc effectivement, il y avait une marque très profonde du jazz américain, du jazz chanté.
Sur
la samba, puisque la bossa nova, c'est de la samba, ils le disent tous.
Oui.
C'est une samba transformée, mise à l'os, etc.
Mais le rythme, c'est de la samba, on est d'accord.
Ça part de là.
Je trouve que c'est un mélange du jazz avec de la samba.
Oui.
Voilà. Et ce qui s'est passé après, c'est que le Brésil, dès les années 60, enfin, au tout début des années 60, le gouvernement brésilien, c'était Kubitschek, à,
oui, je serais
à Brasilia.
Qui était en train de construire, qui a construit Brasilia.
Et construit Brasilia, il a construit la modernité brésilienne, il a fait de la bossa nova un soft power.
Oui.
Donc, de la même manière que pour les Américains, le Brésil était un enjeu. Donc, les départements d'État américains envoyaient des jazzmen au Brésil. Hein, c'était de Charlie Bird, etc., qui allaient au Brésil.
Bah, et réciproquement, j'ai envie de dire.
Et en 62, ils ont fait le grand concert au Carnegie
Hall. Au Carnegie Hall, à New York.
Qui était l'Itamaraty qui l'avait provoqué.
Le Quai d'Orsay.
Le Quai d'Orsay brésilien. Donc, il y a eu un échange comme ça qui était très politique. Et ensuite, évidemment, est arrivée la dictature en 64. Et les musiciens brésiliens, beaucoup, sont allés. Bah, Jean Gilberto a vécu 7 ans aux États-Unis. Jobim y a travaillé tout le temps. Marcos Valle a fait toute sa carrière. Enfin,
Sergio Mendes
y est resté.
Et
Omir Deodato, ils sont tous restés au Brésil.
Et, super arrangeur aussi. Super arrangeur.
Deodato,
aussi,
oui, énorme. Oui, et qui continue. Et il a travaillé avec tout. Il continue à travailler avec tous les groupes de rock, de jazz américain. Donc il y a eu une interaction aussi avec le jazz parce que la bossa nova est assez souple, en fin de compte. Il y a aussi beaucoup d'improvisation.
Assez souple.
Musicalement.
Ok.
C'est
Brésil. Hein.
Il y a une souplesse musicale.
Toute la création.
Le swing brésilien.
Vous parlez dans le micro, Sophie, sinon
c'est le swing brésilien.
Et d'improvisation aussi.
L'improvisation, c'est le reflet du peuple brésilien.
Et Menescal raconte que quand ils sont allés au Carnegie Hall en 62, lui, il ne voulait pas y aller parce qu'il avait une partie de pêche. Donc,
Roberto Menescal. Qui travaillait à la Philips comme.
Plus tard, hein, voilà. Mais pour le moment.
Il était guitariste et compositeur.
C'était le petit amoureux de Nara Léon, etc.
Il était au Barking.
Il a écrit au Barking, le Barking, qui est une vraie anecdote. Ils sont tombés en rade sur un bateau, ils avaient bu du rhum, etc. Mais enfin, bref, il raconte. Lui, il aimait pêcher, Marcos Valle faisait du surf, enfin voilà. Et Tom Jobim nageait tous les jours, il faisait Copacabana, Lem, etc., à la nage, jusqu'à Leblon. Ils étaient très liés à la mer et tout ça. Et Menescal pêchait. Donc, quand l'Itamaraty lui demande d'aller représenter le Brésil.
Le ministère des Affaires étrangères.
Il dit non, j'ai une partie de pêche ce jour-là, je ne peux pas y aller. Bon. Et donc, Tom Jobim l'appelle en disant « Écoute, tu dois y aller parce que ce n'est pas toi que tu vas représenter, c'est le Brésil. » Donc, il y va. Et quand ils arrivent à New York, ils voient tout un tas de musiciens. Non, ils voient des musiciens de jazz très connus, Dizzy Gillespie, etc. Ils sont à l'aéroport. Et ils se disent « Ah bah tiens, ils partent en voyage aussi. » Non, ils sont là pour les attendre. Donc, il y a vraiment une interaction très forte et une vraie admiration des musiciens de jazz et quand ils font Carnegie Hall, Miles Davis est dans la salle. Enfin, ils sont tous là, quoi.
Heureusement qu'il y a eu une captation au Carnegie Hall. On peut écouter.
Tu peux écouter, oui, mais on peut pas. Ça n'a pas été filmé du tout.
Non, mais je crois que j'ai un disque. On est d'accord. Alors, vous avez évoqué Roberto Menescal, Véronique Mortaigne, et le choix de Dominique Dreyfus était Construção, avec des arrangements de Rogério Duprat, et qui était producteur responsable de la production à la Philips. C'était Roberto Menescal, qui est toujours en vie. Roberto Menescal, il doit avoir plus de 80 ans, mais bon pied, bon œil.
87, comme ça. Oui.
Vous écoutez Brésil Alto Astral, vous écoutez Aligre FM. Véronique Mortaigne, est-ce que vous avez vu le film qui a été consacré à l'enregistrement du disque de Elis Regina à Los Angeles avec Tom Jobim?
Magnifique.
Il avait été présenté, je crois,
formidable,
il y a 2 ans.
Formidable, oui, au festival du cinéma brésilien, à l'Arlequin.
Absolument. Hein,
c'est extraordinaire. C'est un moment formidable. C'est un film musical exemplaire.
Ouais. Hein,
parce que on les voit travailler, on voit les conflits qu'il y a aussi, y compris avec des pointes amoureuses, etc.
Un mélange.
Un mélange.
Les mélanges,
ils se font la gueule après.
J'étais moi non plus, vraiment.
Voilà, c'est ça. Ils font la tête, après ils se réconcilient, etc. Et l'album est magnifique,
l'album
est merveilleux.
Et magnifique, il y a ce fameux duo Águas de Março, qui est une des chansons préférées des Brésiliens. Construção, c'est aussi, quand on fait des sondages comme ça, qu'on a écouté la semaine dernière, c'est aussi une des chansons préférées des Brésiliens. Et enfin, oui, ce duo, je ne sais plus, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais c'est vraiment un pan d'histoire. J'ai demandé, car nous sommes des passeurs, mesdames, voilà, c'est un petit peu ce qui nous anime, c'est aussi un point commun que nous avons, c'est peut-être possible. Pour ça aussi qu'on a beaucoup de choses à se raconter et qu'on ne fait pas une émission, mais deux émissions en votre présence. J'ai sollicité aussi Jérôme Pigeon et je lui ai demandé d'ailleurs s'il voulait participer. Mais Jérôme Pigeon est DJ, donc c'était un peu tôt pour lui. Mais on va écouter une chanson qu'il nous a suggérée. Bah, Véronique Mortaigne, est-ce que vous voulez bien, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, présenter qui est Jérôme Pigeon ?
Gringo da Parada.
Oui,
c'est son surnom. Oui, c'est ça. Alors, Jérôme Pigeon, avec d'autres, et avec Rosanne Mazer,
son ex-femme,
ont fondé la Favela Chic à Paris, qui a commencé vraiment dans un petit boui-boui du Faubourg Saint-Antoine et qui s'est agrandi ensuite, et qui a été tout de suite, parce que le look était extraordinaire, avec des choses très kitsch, des Vierges Marie avec des roses et de la transgression, un lieu de rendez-vous de plein de gens, de rockers célèbres, etc. Et ils ont développé cette esthétique et des invitations musicales qui étaient formidables. Et c'est un grand lieu de rencontre qui, malheureusement, bon, après... c'est dissous, on va dire, parce que le monde de la nuit est compliqué quand même.
Oui, il y a eu pas uniquement le restaurant Véronique Mortaigne, mais il y a aussi les compiles lancés par Jérôme Pigeon, parce qu'il sortait des disques qui étaient assez canons.
Et puis il y a eu le premier disque international de Céo Georges, qui a été
cool. Ah oui, c'est vrai.
Qui a été fait sur leur label, c'est leur production. Ouais. Et Jérôme, Gringo da Parada, c'est lui qui a arrangé ce disque Clou, qui a été rejoué d'ailleurs. Pour la saison du Brésil au Théâtre de la Concorde, intégralement avec les mêmes musiciens, pour deux concerts qui ont été diffusés sur FIP, qu'on doit pouvoir le retrouver, qui était formidable, avec Céo Georges et tous les musiciens qui l'accompagnaient à l'époque. Et Céo Georges qui était en larmes et tout, il y a Mathieu Chédid aussi qui faisait partie de la bande. Donc ils ont eu un rôle assez déterminant sur la transmission de la culture brésilienne ici à Paris.
Oui, c'était même le début un peu de la mode du Brésil à Paris, j'ai l'impression. Et c'est au Georges que vous évoquiez, Véronique Mortaigne, qui a inauguré la saison du Brésil. C'était le 1er avril au Rex pour deux concerts.
Et Jérôme et Rosanne ont été, Jérôme Pigeon, Rosanne Mazer, ont été des aides précieuses pour nous. Et ils ont vraiment travaillé sur cette saison. Et notamment, Rosanne a monté le bal qui était au Grand Palais.
Au Grand Palais.
Qui était formidable. Et Jérôme a refait le concert de Céo Georges. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses et ils sont toujours très passeurs. Rosanne a ouvert un bar, d'ailleurs, il y a un nouveau bar qu'elle a, qui s'appelle La Panza.
Alors, nous écoutons le choix musical de Jérôme Pigeon, c'est Brésil Alto Astral.
Cidadão comum, como esses que se vê na rua, falava de negócios, ria, via show de mulher nua, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano, embarcava no metrô. O nosso metropolitano era um homem de bons modos, com licença, foi engano. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. Acreditava em Deus, em outras coisas invisíveis, dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis, pois é, tendo dinheiro não há coisas impossíveis.
mais o anjo do Senhor, o qual nos fala o livro santo, desceu do céu para uma cerveja, junto dele no seu canto, e a morte o carregou, feito um pacote no seu manto. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida.
Vous écoutez Aligre FM et dans Brasil Alto Astral, chaque invité doit travailler, c'est normal. Et là, c'était le choix musical de Jérôme Pigeon, Pequeno Perfil de un Cidadão Comum, signé par Toquinho, qui est compositeur, guitariste, et quel guitariste, et chanteur. Et Toquinho, qui a, je trouve, une relation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, vous ne dites plus rien, Sophie, Titi Givili, qu'est-ce qui se passe? Mais rapprochez-vous du micro, on vous entend
pas. Je bois vos paroles.
Vous ne faites pas la tête.
Mais ça va pas.
Ah bon,
non,
ben non, vous dites plus rien.
Mais je peux me taire aussi, d'accord. C'est possible.
Alors, je trouve que Toquinho, il a une relation avec Vinícius de Moraes qui est magnifique. Et moi, je suis trop jeune, donc je n'ai pas pu assister au concert qu'il donnait à la Fusa de Buenos Aires, avec Maria Bethânia, avec Maria Creuza, mais j'aurais payé fort cher pour assister à ce récital. Il paraît que c'était Baden-Powell qui devait jouer de la guitare, et Baden-Powell est parti en Allemagne, à Baden-Baden d'ailleurs, c'est rigolo. Et donc, il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, que finalement on a demandé à Toquinho, t'as pas des dates. Toquinho, qui était le copain d'exil de Chico Buarque, qu'on a écouté la semaine dernière, c'était le choix de Dominique Dreyfus. Il est allé le rejoindre à Rome. Et il paraît que donc c'est un quoi, non, Marlous, Campos, Sophie, qu'est-ce qu'il y a
non, je rigole,
depuis tout à l'heure.
Parce que vous prenez des
oui,
pardon, directions dans
non,
tous
y a
les
tellement
sens,
de à dire.
Etc. Mais c'est ça, il te faut plusieurs émissions avec tes invités.
Vous avez raison, je reprends les rails, mais je trouve qu'ils ont une relation avec Vinícius de Moraes qui est un peu filiale et qui a une, je vais dire, une ternure.
Tendresse.
Une tendresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Palpable.
Oui, oui. Sans doute.
Ce sera toujours le petit Toquinho, j'ai envie de dire.
Bah déjà, Toquinho, c'est petit. Hein.
Oui,
c'est un petit Toku.
Oui, c'est vrai.
C'est pas petit, en plus.
C'est pas son vrai nom. Hein, c'est
non,
évidemment
non
un surnom.
Lui, il n'est pas petit d'ailleurs.
Non.
Oui, tout à fait. Oui, oui, mais sans doute, la relation était presque paternelle, à fait.
Et quel guitariste extraordinaire. Eh bien, c'est rigolo, mesdames. Je pensais qu'on allait faire une émission. On en a fait deux, puisque là, nous sommes toujours le vendredi 27 février. Nous avons enregistré dans les conditions du direct à l'issue de l'émission de la semaine dernière. Vous avez joué le jeu, vous avez bien travaillé, vous avez bien préparé. Vous êtes toutes venues avec une musique. Je voudrais vous remercier, Marlous Campos, Sophie Tsitsijvili de Panasket, Véronique Mortaigne. C'était un très grand plaisir de faire cette émission avec vous. Et je vais terminer avec mon choix, si vous me permettez. À votre avis, qui j'ai... Je vous donne un analyse.
Caetano.
Alors, c'est pas
et
mal,
ce
Sophie. J'ai hésité, mais on reste avec les tropicalistes, avec mon chouchou. Mon chouchou des tropicalistes.
C'est Gilberto.
Non, il est plus âgé, un peu plus âgé.
Moraes Moreira.
Ouais.
Ok.
Bien vu, Véronique Mortaigne, c'est Tonzé. Alors, bon, on pourrait faire des cycles d'émissions sur Tonzé, parce que moi, de toute façon, je lui ai dit déjà par email, parce que je communique via sa femme, je lui ai dit, je pourrais écouter que votre musique, Tonzé. J'aurais jamais compris 25%. C'est tellement intelligent, c'est tellement riche. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour tout comprendre, mais ce n'est pas grave, je me régale. J'ai choisi de Tonzé, des, cha. Je vous prie de porter vraiment attention à la qualité de l'arrangement et à ce violoncelle, mais qui est absolument détectable. Et puis en plus, il fait un petit break comme ça, c'est absolument exquis. Donc écoutez attentivement. Merci beaucoup de votre participation, mesdames. J'ai pris grand plaisir à faire ces deux volets consécutifs en votre présence.
Merci à toi, Gilles, pour l'invitation.
Et merci à la technique, René Clancy. Assisté de Philippe Dunfort. Les programmes d'Aligre FM reprendront à 17h. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Brasil Alto Astral.
falar. Ora, meu bem, dizer o quê? Melhor silenciar.
Se o divino a Deus me habitará pelo vazio, isto não é religião, só quero dar um beliscão no seu corpo sutil.
Dê, xa-xa-xa, ha-ha, pra-pra-pra-lá. Melhor silenciar.
Se o divino a Deus me habitará pelo vazio, isto não é religião, só quero dar um beliscão no seu corpo sutil.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.